Selon vous, on peut parler par la fiction de la réalité?
Alors, en fait, déjà, la réalité, c'est une fiction, hein, si, en quelque sorte, parce que quand on naît avec les codes de son pays, la culture de son pays, on suit des rails et on est un peu dans une fiction qu'on n'a pas trouvée nous-mêmes, hein, qui a été inventée par nos ancêtres, par nos aïeuls. Donc, en fait, la réalité, c'est un peu une fiction déjà. Et je pense que la fiction est un bon moyen de fixer la réalité. Prenons par exemple Jules Verne, par exemple, hein, qui Jules Verne invente les sous-marins avant que les sous-marins existent. Et les sous-marins deviennent une réalité. Ou Émile Zola, qui ne connaît pas la mine, mais il écrit quand même Germinal. Il a visité les mines deux ou trois fois dans sa vie, c'est tout, mais il écrit un énorme roman qui s'appelle Germinal. Donc sa fiction devient plus forte qu'une réalité. Et qu'est-ce que l'on retient finalement des mineurs du 19e siècle? C'est leur roman Germinal, c'est-à-dire une fiction. De la même manière que pour comprendre, par exemple, la misère du monde ouvrier au 19e siècle, il suffit de voir, par exemple, le film Les Misérables de Victor Hugo, hein, il y a un film, où quand on voit Cosette qui rencontre Jean Valjean, et là il y a toute la misère du monde, cette gamine qui est exploitée par les Thénardier et qui va chercher de l'eau la nuit, et on voit Jean Valjean qui la trouve près du puits. Moi, quand j'étais gamin, que j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite la réalité du monde ouvrier à la fin du 19e siècle. Donc, si tu veux, la fiction permet d'ancrer une réalité dans l'imaginaire des gens. Enfin, il me semble. C'est un point de vue.
Marie, tu as une question aussi?
Est-ce qu'on finit toujours par mentir dans son roman?
Alors, le mensonge et le roman, c'est une question un peu complexe. L'art est un mensonge. Hein. L'art est un mensonge parce que on invente quelque chose, la personne qui le lit sait bien que c'est pas réel, mais elle entre dans le récit comme si c'était réel. Donc l'art est quelque part, c'est de l'ordre du mensonge. Alors dans un roman, oui, on ment à partir du moment où on crée une réalité qui n'est pas la sienne, qui est une réalité imaginaire, mais le lecteur, lui, il est censé de vivre cette fiction comme une réalité. Donc c'est un mensonge, quelque part. L'art est un mensonge. Tout l'art est un mensonge.
Et en début d'interview, vous avez parlé que vous écrivez une pièce de théâtre en ce moment.
Oui.
Et du coup, est-ce que vous pensez qu'un comédien, il doit mentir sur scène?
Alors, un comédien... Et ça, alors, c'est une bonne question, parce que justement, c'est ce qui différencie la fiction du théâtre. C'est qu'un comédien ne peut absolument pas mentir sur scène. Pourquoi ? Parce que ça se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'il doit vraiment vivre son personnage, et pour le faire vivre, il doit être authentique. Si jamais, et on voit ça dans les répétitions, quand il n'a pas appris son texte pas très bien, eh bien il lance les phrases, il récite. Donc il n'est plus dans le personnage. Et je pense qu'un comédien, il est vraiment bon lorsqu'il est authentique. Et il est authentique lorsqu'il ne ment pas sur le personnage qu'il incarne. Et si jamais il triche, ça se voit tout de suite sur scène. Donc vraiment, le théâtre, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment l'endroit où l'on ne peut pas mentir lorsqu'on est sur scène.
Et est-ce que c'est possible, à force de jouer le même rôle, que finalement on reste dans le personnage, on n'arrive pas à se détacher du personnage qu'on joue sur scène?
Ah, dans la vie, tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Oui, ça arrive. Par exemple, tu vois, tu as des répliques. Moi, je me rappelle des répliques que je me souviens d'un... Il avait votre âge, d'ailleurs. J'avais fait du théâtre avec lui. Et il avait des répliques très particulières. Mais comme il avait une personnalité très forte, ces répliques me reviennent tout le temps maintenant. Et quand je dis la même chose que lui, et bien je pense à lui. Donc en fait, j'ai pas quitté la scène. Je suis toujours dans ses répliques à lui. Par exemple, là, j'ai une comédienne, elle répète toujours « on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas ». Et maintenant, quand on est dans la rue ou qu'on va au café pour boire quelque chose, elle me dit « on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas ». Elle est toujours dans son rôle, quoi. Parce que c'est des répliques qui restent tout le temps dans l'imaginaire, dans notre esprit. On ne s'en détache pas, quoi. Ça revient. Mais bon, ce n'est pas, toute la pièce, hein, c'est simplement des petites répliques qui reviennent tout le temps, quoi, qui marquent.
En restant toujours dans le mensonge, oui. Est-ce que l'amour pousse-t-il au mensonge ou au contraire nous rend-il plus sincères?
C'est une bonne question, ça. Alors, comment répondre à cette question? Je pense que, d'abord, il y a plusieurs formes d'amour. Hein. L'amour d'une mère ou d'un père pour son enfant, et surtout d'une mère pour son enfant, c'est un amour qui est très pur. Il n'y a pas de mensonge. Je ne crois pas. L'amour d'une mère et de ses enfants. Entre deux êtres de sexe différent, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges parce que peut-être même ce qui nous lie à l'autre, sur le plan affectif, sur le plan du couple, c'est très souvent, il y a beaucoup de mensonges. Pourquoi ? Parce qu'on ment pour aider l'autre, pour lui faire plaisir, pour ne pas le blesser. Et puis on a chacun son jardin secret dans un couple. Et ça, c'est un petit mensonge, quelque part. On ne dit pas toute la vérité. Voilà, je pense que... Et puis, voilà, un couple d'amoureux, c'est pas pur. Hein. C'est un peu une équation. Il y a des inconnus. Bon, voilà, mais je te donne tant, tu me donnes tant. C'est un peu ça, hein, quelque part. C'est pas quelque chose de magique, l'amour. Hein. Alors que... Donc, il y a du mensonge. Alors que l'amour, je pense, d'une mère, d'un père pour son enfant, pour ses enfants, c'est très, très différent. Parce que là, il y a une abnégation qui n'existe pas forcément dans un couple où il y a quand même des rapports de force et donc des mensonges. Enfin, je ne sais pas si je dis vraiment, si c'est vrai tout ce que je dis, mais c'est un peu ce que je sens. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, d'ailleurs.
C'est un
bon
point de vue. Oui, point de vue. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que l'amour rend plutôt aveugle ou plutôt nous fait voir la vérité chez les gens?
Ah non, non, l'amour nous rend complètement aveugle. Hein. Ça...
D'accord.
Là, l'amour nous rend complètement aveugle, mais bien sûr que l'amour nous fait découvrir la vérité des gens, c'est vrai. Mais l'amour, c'est une dépossession, de toute façon. On se dépossède de quelque chose. Si tu vis une relation d'amour en ne te dépossédant pas, eh bien, oui, tu vois la vérité telle qu'elle est. Mais si tu te dépossèdes complètement, tu vois l'autre tel qu'il n'est pas. Ça dépend comment tu vis l'amour. Soit ce sont des amours où tu te dépossèdes pour être avec l'autre, et à ce moment-là, bon, bah, tu es un peu aveuglé, ou bien tu contrôles, enfin, sans contrôler, c'est pas le mot, mais où tu restes vraiment toi-même et tu es amoureux, mais sans vraiment être possédé par l'amour, à ce moment-là, oui, tu vois beaucoup plus clair.
C'est plus de l'amour.
Ben, si, ça peut être de l'amour, mais un amour, comment dirais-je...
Une passion.
Une passion, oui, voilà, c'est pas l'amour... Il y a plusieurs formes d'amour, hein. C'est pas l'amour aveugle, c'est un amour... les amours, il faut quand même pas non plus exagérer, ils sont toujours un peu raisonnés, hein. C'est un peu raisonné. Hein. Regardez les couples dans Paris. Hein. Vous avez un grand avec une grande, un petit avec un petit, un moche avec une moche, un beau avec un... Bah, c'est un peu fasciste, l'amour. Bon, il faut dire la vérité. Une forme de fascisme, l'amour. Hein. Non, bon, j'exagère peut-être.
Bon, un peu de pessimisme. Alors, il y a du coup une dernière question.
Ah oui. Du coup, selon vous, après avoir entendu notre podcast... est-ce que vous pourriez dire qu'on peut vivre dans le mensonge?
Alors, je crois que non. On ne peut pas vraiment vivre dans le mensonge parce que ça se retourne tout le temps contre nous. Vous voyez, en ce moment, on peut parler de deux formes de mensonge. Il y a un mensonge civil qui nous concerne tous. Et puis, il y a le mensonge politique de Trump à Poutine. Ce mensonge politique, on voit qu'il ne mène à rien. Poutine fait croire que nous sommes des fascistes et que nous attaquons la Russie, que nous voulons détruire la Russie, alors que ce n'est pas vrai. Je ne pense pas que parmi vous haïssiez les Russes avant cette guerre en Ukraine. Hein. Bon, eh ben, les Russes pensent que nous, on les hait. Voilà, on les hait et on veut les détruire. Enfin, pas nous vraiment, mais la politique européenne veut détruire. C'est un mensonge. Il a construit sa propagande sur un mensonge. Ça se retournera inévitablement contre lui. De la même manière que Trump, ça s'est retourné contre lui. Quand il a dit, Trump, après les élections des Républicains, ces élections sont illégales, ils ont triché. Les Républicains le croient encore. N'empêche que Trump, il est dans sa petite voiturette maintenant et il est interdit de réseaux sociaux. Bon, voilà, ça s'est retourné contre lui, ce mensonge. La petite voiturette, parce qu'il a un terrain de golf en Floride. Et il est tout le temps en train de se balader avec sa petite voiturette. Enfin, c'est pour ça que je dis ça.
Donc dans tous les cas, en fait, le mensonge se retourne...
Je pense que, inévitablement, le mensonge se retourne contre toi.